l'heure, c'est l'heure du journal. Avec vous, Maxime Fayolle, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le cardinal Barbarin annonce qu'il remettra sa démission au pape dans les prochains jours, conséquence directe de sa condamnation aujourd'hui pour non-dénonciation d'agression sexuelle. L'armée veut plus de femmes dans ses rangs. Actuellement, elle représente un peu plus de 15% des effectifs, mais c'est surtout au poste à responsabilité que les femmes sont absentes. Les explications de Nathalie Hernandez. Nous irons au Canada où le Premier ministre Justin Trudeau traverse la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2015. Il est soupçonné de collusion avec une entreprise de BTP impliquée dans une affaire de corruption en Libye. Et le dossier de ce journal de 18h consacré ce soir au premier forum de la société civile du monde arabe. Il aura lieu demain à l'Institut du monde arabe et 9 femmes sont invitées à s'exprimer. Le cardinal Philippe Barbarin va donc présenter sa démission au pape. Le prélat l'a affirmé après sa condamnation ce matin à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression pédophile dans son diocèse. Selon le tribunal correctionnel, le cardinal a fait le choix en conscience pour préserver l'institution à laquelle il appartient de ne pas transmettre les informations qu'il détenait à la justice. Le cardinal qui s'est exprimé à la mi-journée.
Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Précisons que les avocats de Mgr Barbarin ont décidé de faire appel de cette condamnation. Il devient toutefois le 3e évêque français condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels après l'évêque de Bayeux-Lisieux en 2001 et l'ancien évêque d'Orléans l'an passé. Une décision de justice qui n'a en tout cas pas manqué de faire réagir Christophe Vincent.
C'est à deux pas de la primatiale Saint-Jean que Philippe Barbarin a annoncé sa décision et sur le parvis de la cathédrale, Jean-Claude le regrette déjà.
Il avait peut-être quelques petites responsabilités, mais je ne pense pas qu'il méritait ça. Je l'ai suivi pendant de nombreuses années, je pense que c'est pas juste. Mais j'accepte la décision de justice, que je vous dis, si on n'accepte pas la justice, c'est fini, c'est la guerre dans notre société. Il va devenir humble et en bas du dispositif, puis c'est normal pour un chrétien.
À l'égard du cardinal, Huguette se montre moins indulgente.
La non-dénonciation de ce genre de fait est un délit et c'est un peu choquant de la part d'un membre de l'Église. Et moi, je suis choquée et triste à la fois. Je pense que la religion catholique en prend un bon coup là. Ça m'attriste, oui, oui. On s'y est attaché. S'il décide lui-même de partir, il faut qu'on accepte sa démission. Le pape doit accepter sa démission.
Pour Marie, cette situation a trop duré.
Je pense qu'il aurait fallu dénoncer effectivement le prêtre qui était mis en cause. Ça fait trop longtemps qu'il est dans la polémique de toute façon. Probablement au fond de lui-même il a pensé bien faire, mais vis-à-vis de l'opinion publique je pense que c'est pas bien.
Pour tous les catholiques rencontrés, c'est sûr, le pape François va accepter cette démission.
Christophe Vincent, et justement cette nouvelle condamnation fait réagir au Vatican. Il reste désormais au pape à prendre la décision sur l'avenir du cardinal Barbarin, Mathilde Imberti.
L'archevêque de Lyon se rendra à Rome dans les prochains jours pour remettre au pape François sa démission. Le pape peut la refuser comme il l'avait fait en avril 2016. Nous étions au début de l'affaire. Le cardinal Barbarin déjà avait pensé à renoncer, mais le chef de l'Église catholique avait jugé dans les colonnes du journal La Croix que cette démission serait un contresens et une imprudence. 3 ans plus tard, la décision de la justice française est là et l'Église a été bousculée par une série de scandales de pédophilie. La tolérance zéro a fait l'objet d'un sommet extraordinaire il y a 2 semaines. À Rome. Et le pape, à cette occasion, s'est engagé à appliquer ce principe et à sanctionner les membres de son église quand nécessaire. Une intransigeance appliquée à un cardinal américain, Theodore McCarrick, cardinal accusé d'avoir abusé de mineurs et de jeunes hommes. Il a été défroqué par le pape François, mais c'est un cas très différent du cas lyonnais. Mgr Barbarin est le 3e évêque français condamné pour avoir couvert des abus sexuels, mais le premier a annoncé son intention de démissionner pour ce motif. Le Vatican, sollicité depuis ce matin par les médias, n'a pas encore réagi. La date de la venue de Mgr Barbarin à Rome n'a fait l'objet d'aucune déclaration officielle.
Mathilde Imberti, rappelons également que dans ce dossier, les actes du père Prénat qui ont conduit à cette condamnation du cardinal Barbarin n'ont pas encore été jugés par la justice. L'Italie et le Premier ministre Giuseppe Conte affirment aujourd'hui que le projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin n'est pas un projet dont l'Italie a besoin. Le Premier ministre qui pourrait même décider de ne pas continuer les travaux déjà entamée. Après 2 mois de procès, Mehdi Nemmouch sera fixé sur sa culpabilité ou non ce soir dans l'affaire dans l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2014. 4 personnes avaient perdu la vie. Le procureur a demandé un verdict de culpabilité à l'égard de Mehdi Nemmouch. La santé d'Abdelaziz Bouteflika n'inspire aucune inquiétude. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le directeur de campagne du président algérien. Il estime que les examens qu'il réalise en Suisse depuis une dizaine de jours sont bientôt terminés. Aujourd'hui, avocats et journalistes ont défilé dans les rues contre sa candidature à un 5e mandat et le président Bouteflika a délivré un message aujourd'hui à propos de ces contestations. Leïla Berhato.
C'est un message de la présidence qui a été transmis à l'agence officielle de presse. Le message se félicite de la maturité des manifestants et du pluralisme démocratique que ce mouvement prouve, selon la présidence. Mais le texte évoque la période de terrorisme et souligne qu'il faut être vigilant et prudent, je cite, quant à une éventuelle infiltration de ces manifestations par une partie externe qui pourrait, je cite à nouveau, susciter la division et provoquer le chaos. La présidence écrit enfin qu'elle exhorte les maires à veiller à la préservation de l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que les autorités font référence à la violence des années 90 face à ce mouvement de protestation inédit et face à l'ampleur que prennent les manifestations. C'était d'ailleurs le sens des derniers messages de l'armée, mais aussi du Premier ministre, qui, en évoquant le fait que les manifestants tendaient des fleurs aux forces de l'ordre, avait ajouté « En Syrie aussi, ça a commencé avec des fleurs ». Pourtant, la mobilisation ne faiblit pas et surtout, les défections dans les rangs des soutiens du président sont un peu plus nombreuses chaque jour. Depuis hier, 3 organisations liées aux anciens combattants de la guerre d'indépendance ont annoncé leur soutien aux manifestants et leur refus d'un 5e mandat.
Leïla Berhato et cette situation en Algérie, elle sera au cœur du tout premier forum de la société civile du monde arabe. Il est organisé par l'Institut du monde arabe. Le but, c'est de laisser la parole aux citoyens des 22 pays de la Ligue arabe, un après-midi par trimestre. Et demain, pour la journée internationale du droit des femmes, ce seront des militantes, des chercheuses, des blogueuses qui vont s'exprimer. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
9 femmes donc qui partageront leur parcours mais aussi leurs espoirs.
Oui, certaines sont d'ailleurs dans l'avion, d'autres déjà à Paris, comme la slameuse native d'Oran, toute fine, c'est son nom de scène. En mai dernier, Zulika Tahar sortait un premier mini-album, 5 titres, quasiment prémonitoires sous forme d'adresse au drapeau algérien.
Autant te dire que ta jeunesse est prête à s'ouvrir à toi. Autant te dire que ta jeunesse est prête à porter ta voix. Dis-leur, alors, dis-leur. Alors, à ces seniors de la laisser faire, dis-leur, alors à ces seniors qu'on ne veut plus se taire. Mabrinesh, Barhin.
La jeune femme âgée de 26 ans est un petit peu frustrée d'être à Paris alors que son pays bouillonne, mais elle a hâte aussi de partager son expérience de l'Algérie.
Moi, j'ai grandi dans la peur de que la destinée noire reprenne. Quand la jeunesse est sortie, on a essayé de la terroriser encore une fois avec cette histoire-là, mais ça ne marche plus. On l'a dépassé, la barrière de la peur, mais il y a des questions autour. On ne sait pas si le peuple algérien tout entier va être d'accord pour dire oui aux mêmes revendications, je veux dire la démocratie. J'espère qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire oui à ceci.
Alors si l'Algérie est parcourue par un vent d'espoir, c'est dans une chape de plomb qu'est drapée l'Égypte. Hier encore, Amnesty International dénonçait le cyberharcèlement dont sont victimes les militants des droits de l'homme. La toile, espace d'expression libre qui se réduit comme une peau de chagrin avec 500 sites internet actuellement bloqués dans le pays. Shahinaz Abdelsalam est une cyberactiviste historique. Bien avant la révolution de 2011, elle dénonce c'est le régime Moubarak. Son dernier billet de blog date d'octobre 2018. Elle est de plus en plus prudente avec le régime d'Al-Sissi.
Il arrête tout le monde, même les gens qui écrivent sur Facebook, même les gens qui écrivent sur Twitter. Bon, mon blog, il est pas censuré, heureusement, pour l'instant. Et j'écris pas souvent sur mon blog maintenant. Mais il y a beaucoup de sites que j'écrivais là-dessus. En fait, ils sont maintenant bloqués en Égypte. C'est décourageant, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas finir en prison, et je comprends. Bah, je parle malgré tout. C'est ce que je peux faire en fait aujourd'hui.
Difficile de parler, de se déplacer parfois aussi. La Libyenne Inas Miloud, qui a fondé une association pour le droit des femmes berbères, a dû se rendre en Tunisie pour faire son visa et avoir un vol. Elle sera à Paris demain. Chérine El-Missiri peut souffler. Elle organise ce premier forum des sociétés civiles à l'Institut du Monde Arabe et elle veille depuis des semaines toutes ses militantes sur Internet.
Ça répond à un besoin qui est fort. Bon, à l'Institut du Monde Arabe, on fait depuis longtemps des rencontres et débats, mais on n'avait pas vraiment de rendez-vous ancrés et institutionnalisés. Et voilà, l'idée, ce sera toujours d'avoir des voix singulières, mais fédératrices aussi, du monde arabe.
Et ces 9 citoyennes réunies demain dans le cadre plus large du festival Arabofolie, qui se tient jusqu'au 10 mars à Lima, auront évidemment une pensée pour la chanteuse Sahraoui Aziza Brahim, déprogrammée sous la pression du Maroc.
Anne Fauquemberg, votre reportage sur le premier forum de la société civile du monde arabe demain, donc à Paris. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau contre-attaque, lui qui est soupçonné d'avoir cherché à influencer une affaire judiciaire. Son ancienne ministre de la Justice dit avoir subi des pressions pour négocier un accord à l'amiable avec un géant du BTP, une entreprise impliquée dans un scandale de corruption en Libye. Justin Trudeau dément aujourd'hui toute intervention, une déclaration alors que le gouvernement canadien est en plein tourment, Grégory Phillips.
Face à la plus grave crise politique de son mandat, Justin Trudeau a convoqué la presse ce matin à Ottawa et alternant le français et l'anglais, il répond à toutes les questions. « Je n'ai jamais eu de considération partisane », dit le Premier ministre. « Mon gouvernement et moi-même n'avons rien fait d'inapproprié. » L'ex-ministre de la Justice, depuis rétrogradé au ministère des Anciens Combattants, accuse pourtant Trudeau d'avoir fait pression sur elle afin qu'elle empêche des poursuites à l'égard de cette entreprise de bâtiments et travaux publics. SNC-Lavalin est impliqué dans un scandale de corruption dans le cadre de marchés passés avec des partenaires libyens. Trudeau est donc sur la défensive, obligé aussi de faire son mea culpa.
Ce qui est devenu clair, c'est qu'au cours des derniers mois, la confiance s'est érodée entre mon bureau et l'ancienne ministre de la Justice et procureur général. Je n'étais pas au courant de cette érosion de confiance et en tant que premier ministre et co-chef du Conseil des ministres, j'aurais dû l'être.
À 7 mois des législatives, Justin Trudeau paraît fragilisé. Dans les derniers sondages, l'opposition conservatrice est désormais largement en tête. Mais dans cette affaire SNC-Lavalin, l'enjeu n'est pas uniquement politique, car 9000 emplois canadiens sont menacés si l'entreprise finissait par être condamnée pour corruption.
Les précisions de Grégory Phillips. 18h12 sur France Culture. La Banque Centrale Européenne revoit ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année. L'institution table désormais sur 1,1% de croissance dans la zone euro contre 1,7% précédemment. En France, le grand débat national lui touche bientôt à sa fin. Les discussions vont encore durer une semaine. Et le chef de l'État, Emmanuel Macron, est aujourd'hui en déplacement à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Il y rencontre des jeunes et des élus, notamment pour parler d'écologie, un thème qui mobilise la jeunesse européenne et française depuis plusieurs mois. Le gouvernement, qui est souvent critiqué pour son inaction dans ce domaine, Laurence Perron, il n'est donc pas étonnant d'avoir vu Emmanuel Macron pris à partie par plusieurs jeunes cet après-midi.
Le modèle du grand débat macronien aurait-il vécu ? La méthode, un stand-up de plus de 5 heures, avec salve de questions et un grand oral du président en boomerang, semble s'épuiser. Certes, les expressions sont libres, c'est souvent vif.
Le mouvement des Gilets jaunes que nous soutenons, qui, alors que nous les oublions quelque peu enfermés dans cette salle, sont certainement en train de se faire réprimer à l'extérieur. Il y a une certaine hypocrisie à parler d'écologie sans transformer profondément notre système. Votre gouvernement défend un modèle néolibéral et capitaliste. Ce n'est pas compatible avec le maintien des petits paysans.
Parfois mignon.
Moi, sixième, je voudrais savoir de quoi vous voulez dire en tant que transition écologique.
Mais en réalité, chaque réponse fournit au président une occasion de légitimer son action.
Moi, si je dis par exemple demain en France, plus un pesticide, c'est impossible. Je peux pas seul dire c'est 0 ou 100 du jour au lendemain.
Très à l'aise dans l'exercice, il n'hésite pas à s'emporter.
Le jour où vous serez attaqué par quelqu'un, le jour où vous aurez un assaillant, le jour où un terroriste viendra peut-être, que je ne vous souhaite pas, vous appellerez qui ? Vous n'appellerez pas ceux que vous êtes en train de défendre. Vous appellerez un policier ou un gendarme. Parce que c'est l'ordre public et il intervient pour la sécurité de tous. Et ce distinguo, faut pas l'oublier.
Attention aussi.
Si vous commencez à faire, à papoter entre vous, on va pas y arriver. Vous avez été très sage jusqu'alors.
Mais au final, que ce soit sur le loup, la restauration de l'aide au bio, la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou encore l'ébauche d'une fiscalité écologique, chacun repart un peu sur sa faim.
Le reportage de Laurence Perron. Une proposition de loi aujourd'hui sur l'interdiction de l'usage du LBD. Elle est examinée au Sénat. Le lanceur de balles de défense, toujours au centre des débats, toujours très critiqué entre les lignes par le haut commissaire aux droits de l'homme à l'ONU hier, Michel Bachelet, qui demande des enquêtes sur l'usage excessif de la force lors des manifestations de gilets jaunes. Le mouvement qui continue d'ailleurs, l'acte 17 pourrait même durer tout le week-end. Mais malgré ce contexte, cette proposition de loi, à l'origine des communistes, a très peu de chances de passer, estime la chef de file des communistes au Sénat, Éliane Assassi. Mais pour elle, ce débat doit tout de même prendre de l'ampleur.
Là, aujourd'hui, l'actualité fait que c'est un sujet qui a fait irruption dans l'espace public parce qu'on causait ces armes sur des individus. Et puis, moi, j'ai eu quand même la précaution d'auditionner un certain nombre d'associations, mais des policiers aussi, des syndicats de policiers dans leur diversité. Et eux-mêmes s'interrogent sur l'utilisation de leurs armes. On sait très bien qu'il y a d'autres policiers dont les missions ne relèvent pas du maintien de l'ordre qui utilisent aussi cette arme alors qu'ils ne suivent pas les mêmes formations que, par exemple, les CRS et les gendarmes mobiles pour l'utilisation de cette arme. Donc, on sait très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été atteintes au visage. Donc, on a un vrai problème. C'est un vrai sujet. Il faut effectivement regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont arrêté d'utiliser cette arme. Et donc, pourquoi en France reste-t-on aujourd'hui droit dans ses bottes sur ce sujet-là? Sincèrement, c'est une vraie
La sénatrice communiste Éliane Assassi avec Steven Gouaillet. Et de son côté, le gouvernement lance un grand plan de féminisation de l'armée. La ministre Florence Parly souhaite faire progresser la mixité dans l'institution. Les femmes représentent aujourd'hui plus de 15% des effectifs, environ 32 000 militaires, mais trop peu à des postes à responsabilité, déplore la ministre des Armées. Elle souhaite donc y remédier d'ici la fin du quinquennat. Nathalie Hernandez.
Pour la ministre des Armées Florence Parly, les compétences doivent toujours l'emporter pour assurer la protection des Français. Mais ces compétences ne sont pas suffisamment reconnues quand le militaire est une femme. Aujourd'hui, seuls 8% des 32 000 femmes sous les drapeaux sont déployées en opération extérieure et à peine 7% d'entre elles deviennent des officiers généraux. En cause notamment les contraintes de vie de famille et une sélection trop stricte. Tout ça sera assoupli, explique l'amiral Anne de Mazieux, seule amiral d'active dans la marine. C'est elle qui a rédigé ce plan mixité.
Lorsque quelqu'un n'a pas franchi la bonne haie au bon moment, il est éliminé du parcours. Eh bien, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, qu'il y ait plus de possibilités pour faire garder ses enfants, de faciliter l'accès à des concours, de faire en sorte qu'au moment où on passe ces concours, entre l'écrit et l'oral, on puisse garder certains acquis pour que nous puissions faciliter justement cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
La limite d'âge pour passer ces concours sera également supprimée. Objectif à atteindre, 10% de femmes officiers généraux d'ici à 2022.
Nathalie Hernandez, et ce plan de féminisation permet d'élargir la question aux violences sexistes et sexuelles au travail. Une problématique qui est mise en lumière dans les médias par une enquête de plusieurs collectifs. Il en résulte un constat affligeant pour les médias avec des violences massives envers les femmes. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous.
Une fois le constat posé, il faut désormais voir les solutions qui doivent partir du début de la chaîne, c'est-à-dire dès les écoles de journalisme, jusque dans les rédactions des médias.
Hashtag entendu à la rédac vient alourdir la pile d'études studieusement décortiquées depuis des années par Danielle Bousquet, présidente encore pour quelques temps du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Sexisme banalisé, domination masculine, hiérarchie sourde aux douleurs articulées, presque comme partout ailleurs.
Nous avons proposé aux écoles de formation du journalisme il y a quelques années de travailler là-dessus. Il y a eu une fin de non-recevoir absolue, ce qui montre que le monde des médias est persuadé que ça n'est pas important.
Et pourquoi, voilà. Selon vous?
Pourquoi, quand on est dans le monde des médias, qui est un monde de puissance, qu'on est en toute impunité et qu'on est aussi sexiste, sachant qu'en plus, on a le pouvoir, il faut effectivement faire évoluer le monde des médias dans le sens où il s'interroge sur ce qu'il véhicule lui-même et sur les pratiques que cela implique.
À l'école supérieure de journalisme de Lille entre 2010 et 2012, Nassir El-Mouaddem a été victime de harcèlement sexiste et de propos racistes. Après la colère, elle a accepté de réfléchir avec la direction, notamment aux référents que les entreprises doivent désormais nommer conformément à la loi.
Je pense que c'est
fondamental que ces référents ne fassent pas partie des équipes encadrantes, que ce soit des personnes qui viennent de l'extérieur, que ce soit des personnes évidemment formées à ces sujets, et il y a un certain nombre d'entreprises, de cabinets qui travaillent au quotidien sur ces questions-là, et je pense vraiment que ça, il faut absolument que les rédactions et que les écoles de journalisme également puissent travailler sur ces sujets.
La direction de l'école de Lille, qui est loin d'être la seule à déplorer violences sexistes et sexuelles, tiendra mardi un conseil d'administration, sommaire duquel figurent mesures et structures ad hoc pour que le curseur de la tolérance ne sombre pour de bon.
Mathieu Laurent, la météo rapide de demain 8 mars avec un temps variable et des pluies attendues, ça se calmera un petit peu dans l'après-midi, minimale de 2 à 7 degrés le matin.